Manuel Valls a quitté la Calédonie. Après 8 jours sur le territoire, il doit revenir courant mars. Dialogue, écoute et respect étaient les maîtres mots de sa visite pour un ministre des Outre-mer qui se dit confiant pour avancer. Sur l'île de la Réunion, au moins 4 victimes et des dégâts impressionnants après le passage du cyclone Garance. L'alerte rouge a été levée. À l'international, après avoir claqué la porte de la Maison Blanche, le président ukrainien est le bienvenu en Angleterre, selon le premier ministre britannique qui vient de l'accueillir. Des restrictions toujours en vigueur en Calédonie concernant l'alcool ou la vente de munitions, des mesures qui ont été reconduites jusqu'au 31 mars. Les sorties du jour à Bouloupari, place au forum des associations ce dimanche. Et à Nouméa, c'est le grand vide-grenier qui prend ses quartiers sur la place des Cocotiers. Le sport, clap de fin sur l'Open international de squash de l'Olympique de Nouméa. Auguste Dussourd remporte une finale de haute volée contre Baptiste Mazzotti. Et puis la première sprint race de l'année en MotoGP. En Thaïlande, les frères Marquez terminent aux 2 premières places. Le français Quartararo finit 7e. Bonjour et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Après une semaine sur le territoire, beaucoup de déplacements et de rencontres et de nombreuses heures de discussions et d'échanges avec les délégations politiques calédoniennes, Manuel Valls a quitté la Nouvelle-Calédonie hier soir. Quelques heures avant de prendre l'avion, il a dressé face à la presse un bilan de cette visite et il a rendu public un document de 11 pages qui synthétise les orientations présenté par le gouvernement pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, Elisabeth Noir.
C'est un document de travail et le ministre des Outre-mer, qui reviendra dans le courant du mois de mars, souhaite que chacun s'en empare et qu'il suscite la discussion et le débat. Le préambule rappelle la méthode choisie et souligne la nécessité de trouver un accord en affirmant qu'il faut bâtir un compromis politique. Le document souligne ensuite que les échanges de cette semaine ont permis de progresser dans la compréhension des aspirations de chacun, de commencer à dénouer progressivement le nœud gordien calédonien et à commencer à tisser les fils d'un nouveau canevas pour la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle les principes qu'avait énoncé Manuel Valls, dont les résultats des 3 référendums, la sécurité, la démocratie et l'état de droit, mais aussi le droit inaliénable à l'autodétermination ou l'achèvement du processus de décolonisation. Il souligne aussi l'émergence de points structurants et notamment la nécessité d'une période de stabilisation pour bâtir un avenir durable ou encore le refus d'un processus qui mène à des couperets ou la priorité absolue que constitue la jeunesse.
Ce document fait ensuite la synthèse des échanges qui ont eu lieu sur les 3 thèmes retenus par le ministre des Outre-mer, le lien avec la France et l'autodétermination, la citoyenneté calédonienne et le corps électoral, la gouvernance et les institutions calédoniennes, avec un point particulier sur le rôle des provinces.
Et à ce stade, Manuel Valls se tient à préciser qu'il y a eu des discussions, mais pas de négociations. Le document de travail détaille donc chacune des hypothèses émises sur chacun des thèmes à l'occasion des échanges qui se sont déroulés cette semaine. C'est le point sur les positions de chacune des délégations politiques sur l'autodétermination, le partage des compétences, la citoyenneté. Sont aussi traitées les hypothèses évoquées en matière d'accès au corps électoral ou les hypothèses évoquées sur les compétences des provinces, sur les clés de répartition entre provinces, sur la répartition des sièges au Congrès, sur la composition et l'élection du gouvernement, sur les communes ou sur le Sénat coutumier. Un état des lieux, des positions en quelque sorte, une base de travail pour entrer en négociation d'ici quelques semaines. Dans sa conclusion, ce document de 11 pages parle d'un élan qui a été donné et qui marque un chemin d'espérance pour la Calédonie et les Calédoniens.
Manuel Valls doit revenir en Nouvelle-Calédonie aux alentours du 22 ou du 23 mars et sans fixer de date butoir, le ministre des Outre-mer souhaite avancer vers un accord.
Un accord dont il rappelle qu'il est indispensable, sinon le pire est à craindre, après ce que le ministre appelle la catastrophe du 13 mai. Manuel Valls affirme que la France, l'État et le gouvernement sont là pour protéger les Calédoniens, pour soutenir l'économie, pour travailler à une nouvelle stratégie nickel, mais aussi pour relancer le dialogue. Pour le ministre des Outre-mer, une première étape a été franchie avec la participation de tous les groupes politiques aux discussions. Mais le plus difficile reste à venir et il appelle à la retenue et à la responsabilité de chacun. Il affirme également qu'il faut prendre le temps pour avancer et créer les conditions d'une confiance. Même s'il souhaite que ça se passe maintenant, à un rythme assez rapide, étant donné l'échéance des provinciales prévues en fin d'année. Manuel Valls affirme aussi qu'il va falloir être inventif, et il évoque l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, qui est un miracle fragile, qu'il convient de protéger.
Merci Elisabeth Noir. Le ministre des Outre-mer souligne aussi que l'accord politique doit s'accompagner nécessairement d'un projet de société. Manuel Valls était accompagné du conseiller auprès du Premier ministre Éric Thiers. Ils ont quitté la Nouvelle-Calédonie hier soir et ils doivent revenir aux alentours des 22 ou 23 mars sur le territoire. Ils reviendront, affirme-t-il, avec des propositions. Avant de quitter la Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer a également rencontré hier matin une délégation du Sénat coutumier. Le président de l'institution, Éloi Goé, était accompagné de représentants des conseils coutumiers. C'était pour eux l'occasion de présenter leur proposition d'évolution du Sénat coutumier. On écoute Éloi Goé.
Au niveau institutionnel, c'est comment élever l'actuel statut du Sénat coutumier, mais en général à un niveau plus haut, pour que ce soit mieux pris en compte, quoi. Le Sénat va passer d'une voix, on va dire, consultative à une voix décisionnelle, quoi. Donc c'est l'idée, on travaille sur cette option-là, l'idée de créer une chambre parlementaire, quoi. Ça va être analysé sur le plan juridique à tous les niveaux, c'est déjà en chantier, pour que dans les nouveaux accords, s'il y a accord, ben, tout ce nouveau schéma va être pris en compte, quoi.
Des propos recueillis par Charlotte Coulson, Éloi Goé espère la création d'un groupe de travail lors du retour du ministre à la fin du mois de mars pour travailler sur ses propositions. Il est 7h passé de 7 minutes, une page de publicité dans ce journal avant de voir ce qui fait l'actualité nationale et dans le monde. L'heure est au premier bilan après un cyclone dévastateur à La Réunion. A tout de suite.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Jusqu'au vendredi 7 mars, jouez avec Créator et tentez de gagner un magnifique collier en perles de Tahiti. Un cadeau d'une valeur de 120 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez maintenant chance au 40-20. Venez découvrir nos bijoux dans vos trois magasins Créator, Centre-Ville Alma, Hyper Upaïta et 7e Kilomètre. Créator, des bijoux pour toute la famille et tous les budgets. Des bagues, des colliers, des perles et des diamants. Alors pour tenter de gagner ce magnifique collier en perles de Tahiti offert par Créator, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 7 mars à 14h, 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu. Il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Week-end, Michael Juneski.
L'actualité nationale, La Réunion endeuillée après le passage du cyclone Garance. Selon un bilan provisoire, au moins 4 personnes ont perdu la vie, Léana Colombo.
Oui, une quinquagénaire a été emportée par les eaux et retrouvée décédée dans une bouche d'égout. Une septuagénaire est décédée dans l'incendie de sa case. Une femme de 45 ans, mère de 3 enfants, a succombé à un ensevelissement. Et après la levée de l'alerte rouge, hier à 17h pour nous, on a appris qu'un homme avait perdu la vie, emporté par une coulée de boue. Après le passage du sinistre, les dégâts sont nombreux, les cultures sont ravagées et les routes dégradées. 847 familles ont trouvé refuge dans un centre d'hébergement. 160 000 familles sont privées d'électricité, ce qui représente 37% de la population, et plus de 265 000 foyers sont privés d'eau potable. Les moyens nationaux sont mobilisés pour se déployer à La Réunion. Hier, un avion d'Air Austral est arrivé avec à son bord une colonne de 100 personnels de la sécurité civile qui était en renfort à Mayotte. Aujourd'hui, 100 sapeurs-pompiers en provenance de métropole sont attendus. Parti hier soir de Calédonie, Manuel Valls devrait se rendre sur place dans les prochains jours pour être aux côtés des Réunionnais et définir les aides nécessaires pour faire face à l'ampleur des dégâts. Emmanuel Macron a déclaré quant à lui sur les réseaux sociaux que la mobilisation de l'État était totale.
À Paris, le salon de l'agriculture ferme ses portes demain. Un événement qui a été animé par la visite de plusieurs personnalités politiques. Aujourd'hui, c'est Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée, qui a arpenté les allées de la plus grande ferme du monde. Elle a déclaré « La vraie question qui se pose dans notre pays aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aura encore une agriculture dans les 20 prochaines années ?» Marine Le Pen qui n'a pas manqué de réagir à la colère du monde agricole et des problèmes qui touchent aujourd'hui les éleveurs. éleveurs et les producteurs.
La vraie question qui se pose à notre pays aujourd'hui, c'est est-ce qu'il aura encore une agriculture dans les 20 prochaines années. Bon, c'est un sujet prégnant sur lequel les discours semblent un peu changer. Le problème, c'est que les actes ne suivent pas. Donc on est confronté à toute une série de dangers qui pèsent sur l'agriculture, que ce soit la surcharge normative, l'écologie punitive, les problèmes de transmission qui sont majeurs, puisque 50% des agriculteurs vont partir à la retraite dans les quelques années qui viennent.
Le salon de l'agriculture qui fermera ses portes demain matin pour nous. Il avait été inauguré par le président de la République. Je rappelle que la Nouvelle-Calédonie était représentée sur place à Paris avec la province sud et la chambre d'agriculture et de la pêche dans l'espace des Outre-mer.
RRB, il est 7h11.
L'actualité à l'international, toujours marquée par cette passe d'armes historique hier entre Donald Trump et de Volodymyr Zelensky. Dans les heures qui ont suivi cet échange, la plupart des dirigeants européens ont soutenu ouvertement le président ukrainien. Ce dernier vient d'ailleurs de rencontrer le premier ministre britannique Keir Starmer à Londres, la capitale anglaise, où les dirigeants européens se retrouvent pour un sommet demain. Le premier ministre britannique qui a déclaré en l'accueillant « Vous êtes vraiment le bienvenu ». Les Européens entendent bien montrer une image d'unité et de soutien à l'Ukraine. Wilfried de Villers pour Europe 1.
Parce que la séquence d'hier, ce clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky et surtout la violence diplomatique du président américain a eu l'effet d'un électrochoc en Europe sur la nécessité d'apparaître unis. Et c'est bien ce sur quoi compte Volodymyr Zelensky qui, vous le disiez, s'est d'abord entretenu avec le premier ministre britannique au 10 Downing Street. Il doit ensuite rencontrer le roi Charles, ça ce sera demain. Et il sera bien sûr présent à Londres dimanche, demain donc pour ce sommet sur la sécurité en Europe et en Ukraine, au cœur des discussions, le soutien militaire et économique des Européens en faveur de Kiev avec cette grande question, combien de temps l'Ukraine peut-elle tenir sans l'aide américaine? C'est dans ce contexte que Donald Trump a une nouvelle fois taclé Volodymyr Zelensky et appelé à un accord rapide avec la Russie.
Je pense qu'il a surestimé ses atouts. Il devrait y avoir un cessez-le-feu maintenant, mais il n'a pas voulu en parler. Un cessez-le-feu pourrait avoir lieu maintenant.
Reste que le dialogue n'est pas totalement rompu. Volodymyr Zelensky le redit et en a parfaitement conscience. Le soutien des États-Unis reste crucial pour l'Ukraine et il se dit toujours prêt à signer l'accord sur les terres rares réclamé par Donald Trump. Un premier pas pour tourner la page d'une séquence diplomatique humiliante pour l'Ukraine. Le chef de l'OTAN, Mark Rutte, lui, appelle aussi le président ukrainien à réparer sa relation avec Donald Trump.
Wilfried de Villers pour Europe 1. Les réactions après ce clash sont très nombreuses. En métropole, Marine Le Pen ne s'est pas dite surprise. La présidente du groupe RN a jugé normal les frictions entre les deux présidents, mais a regretté, en revanche, que la France ne pèse pas davantage dans ces négociations. Le conflit au Proche-Orient. La branche armée du Hamas a publié une nouvelle vidéo d'otages israéliens captifs à Gaza. Une diffusion alors que la première phase de la trêve entre Israël et le Hamas est entrée dans sa dernière journée et que l'État hébreu et le groupe islamiste ne sont pas d'accord sur la suite à donner au processus à partir de ce soir. C'est une guerre psychologique qui reprend alors que les combats sont arrêtés depuis le 19 janvier. Israël a dit refuser de se laisser intimider. Un retour des hostilités dans la bande de Gaza serait catastrophique, s'est alarmé le secrétaire général de l'ONU. L'actualité dans le Pacifique, à Port Vila, où il était en voyage officiel, le ministre australien chargé du développement international et des affaires du Pacifique, Pat Conroy, a rencontré le nouveau premier ministre du Vanuatu, Jotam Napat. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Les entretiens de Port Vila ont abordé des thèmes désormais classiques tels que sécurité et développement économique. Pat Conroy a profité de l'occasion pour offrir à Jotam Napat un soutien budgétaire direct d'un montant équivalent à 230 millions de nos francs, soutien qui est principalement destiné à aider à la reconstruction de Port Vila suite au terrible séisme du 17 décembre dernier. Par la voix de Pat Conroy, l'Australie s'est également engagée à rester le principal pays donateur d'aide dans le Pacifique Sud. L'Australie sera toujours là pour vous, a-t-il dit, et nous étions là bien avant que d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou la Chine, ne s'intéressent au Pacifique. nous avons discuté coopération économique et sécurité avec l'Australie, s'est pour sa part contenté de déclarer Jotham Napat à l'issue des entretiens. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
À 7h passées de 15 minutes, une nouvelle pause publicitaire avant de revenir à l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Accueil détendu, équipe dynamique, toujours un sourire au Bilboquet Plage.
En tête à tête ou avec des amis, toujours de la place au Bilboquet Plage.
De la simple salade au saumon fumé, toujours un grand choix au Bilboquet Plage.
Du soleil de midi aux 12 coups de minuit, toujours nous servons au Bilboquet Plage.
Au Palm Beach à Lansvata, face aux îlots, Bilboquet Plage, un plus pour le week-end.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite du journal, Michael Juneski.
Le commissariat publie une série d'arrêtés sur les mesures de police administrative, les restrictions sur l'alcool, la vente de munitions et les rassemblements dans le Grand Nouméa, prolongés jusqu'au 31 mars, Léana Colombo.
Et dans le détail, rien ne change, les mesures sont juste prolongées. Pour rappel, la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est strictement interdite sur l'ensemble du territoire. La vente à emporter est quant à elle toujours limitée à 1 litre par jour et par personne pour les boissons fortes de plus de 22 degrés. Concernant l'acquisition de munitions, celles de catégorie C sont limitées à 50 par mois, quel que soit le nombre d'armes détenues. La vente est soumise à une vérification d'identité et de permis. Enfin, les rassemblements de personnes, manifestations et cortèges sont toujours interdits sur la voie publique du Grand Nouméa, soit Nouméa, Dumbéa, Païta et Mondor.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Bouloupari, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
Dans le reste de l'actualité, 2 semaines après la rentrée scolaire, les associations font aussi leur rentrée. Aujourd'hui, ce sont les clubs de Bouloupari qui se retrouvent, Léana.
Une vingtaine d'associations rejoignent les stands du marché de Tomo pour offrir aux habitants une matinée découverte pleine d'animation. Valentine Toffili, élue en charge des sports et des loisirs dans la commune, nous partage les détails de l'événement.
Habituellement, le forum a lieu le samedi et cette année, pour relancer l'activité, on s'est dit qu'on allait relier ça au marché de Tomo qui a lieu tous les premiers dimanches du mois. Donc, on va retrouver à peu près une vingtaine d'associations de la commune, mais pas que. On aura cette année la nouveauté, ce sera la course de Va'a, donc la traversée de Bouraké jusqu'à Tomo, avec une remise de coupe aux gagnants de cette course de Va'a, avec aussi le club de rugby de Dumbéa qui vient faire une petite initiation, et une petite troupe tahitienne pour l'animation. Il y a de la restauration sur place, donc on espère qu'il y aura du monde.
Le forum des associations et des animations de Bouloupari débute tout à l'heure à 9h et se déroulera jusqu'à 13h.
Les associations étaient déjà mises à l'honneur hier sur les communes de Dumbéa et de Païta, des dizaines d'associations culturelles et sportives qui étaient présentes pour des initiations et des démonstrations. L'objectif, acquérir de nouveaux licenciés après une perte de revenus et d'adhérents en 2024. Et puis à Nouméa, le grand rendez-vous du jour, c'est le vide-grenier du centre-ville, seconde édition de l'année. Près de 250 stands présents aujourd'hui. Ça se passe de 7h30 jusqu'à 12h30. Il est 7h passé de 19 minutes. Après la pub, on voit tout le sport.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB recherche un commercial performant. Contactez-nous au 25 46 46 ou par mail à rrbpub@lagoon.nc. RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Week-end et c'est du sport, Michael Juneski.
Le sport en Calédonie, la finale de l'Open International de Squash de la salle Picus se disputait hier soir. Le duel pour le titre opposait 2 invités métropolitains, les numéros 2 et 5 français, Baptiste Mazzozzi et Auguste Dussour. À l'issue d'une finale spectaculaire où les joueurs ont fait étalage de leur talent, sans pression devant le public calédonien, c'est Auguste Dussour qui l'a emporté 3 jeux à 1. Une grande joie pour celui qui était un proche du joueur calédonien, Enzo Corigliano, disparu en 2020. Auguste Dussour.
Que du plaisir, on avait rencontré quelques Calédoniens il y a il y a plus d'un an à Nouméa. Ils étaient venus nous supporter pour les mondes par équipe et on avait super bien accroché avec eux. Ils nous avaient bien super bien reçus, ils nous avaient invités, machin. On avait partagé des bons moments avec eux et c'était une belle expérience. Et donc avoir cette occasion de revenir ici, bah, c'était un plaisir. J'ai un super ami qui est parti il y a 4 ans maintenant et du coup revenir sur ces terres, ça me faisait plus que plaisir. Et donc donc voilà, on a été reçus comme des rois et vraiment que du bonheur. Et bah, j'espère qu'on reviendra.
Un petit mot à propos de cette finale.
Le but c'est de faire profiter les gens ici. Ils n'ont pas l'habitude de voir du squash professionnel. Donc l'objectif numéro un c'est de faire plaisir aux gens. Il n'y a pas vraiment d'objectif sportif sur une finale comme ça, mais pour aujourd'hui c'était vraiment que les gens prennent du plaisir et éviter de se blesser dans ces conditions qui sont quand même difficiles.
Les deux professionnels de l'équipe de France avaient à cœur de s'amuser et d'amuser le public pour cette belle fête du squash. On écoute un perdant tout de même heureux, Baptiste Mazzotti.
Profiter de la jeunesse aussi qui était là pour nous montrer le niveau des Calédoniens au squash. Donc non, c'était top, ça a permis de faire un séjour un peu d'entraînement mais aussi de plaisir avant de partir pour deux tournois PSA. On avait vraiment surtout envie de montrer un peu tout l'éventail de coups qu'on pouvait faire dans le squash, faire plaisir au public. Les conditions sont très difficiles donc on n'allait pas non plus se préparer comme si on faisait un match professionnel. C'était surtout pour pouvoir faire profiter le public. Ouais.
On signalera également que dans la petite finale, le Calédonien Nicolas Masnet s'est incliné face à la Malaisienne Siva Subramaniam, 7e joueuse mondiale, 3 jeux à 1. Une dernière journée du tournoi dans une ambiance électrique et festive qui venait clore une belle semaine dans le cadre des 40 ans de la salle Picou de l'Olympique de Nouméa. Encore des résultats en tennis de table. La Coupe Raymond Sens organisée par le club du Mont d'Or aura vu notamment la victoire hier de Jérémy Day de l'Olympique devant Olivier Clouet et Raphaël Rodriguez. Un trail hier soir, la course à la dorade à Dimbéa-sur-Mer organisée par Challenge Organisation. 77 personnes étaient inscrites. C'est Simon Robin qui a remporté la course phare de 10 km, 48 minutes et 39 secondes. Suivent sur le podium Aurélien Oez en 50 minutes et 15 secondes et Tristan Badio en 50 minutes et 27 secondes. Et puis en force athlétique, lors de la première compétition de l'année qui se déroulait à Dimbéa, la Coupe Jean-Claude Coll, on signalera notamment la victoire d'Axel Raymond au classement Open avec un nouveau record personnel au développé couché.
Radio Rythme Bleu. Les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport sur la scène nationale et internationale. Premier rendez-vous de l'année en MotoGP et la première épreuve, la Sprint Race, aura vu hier soir la victoire de Marc Marquez, les frères Marquez qui ont brillé en Thaïlande puisque l'Espagnol s'impose devant son frère cadet Alex. L'Italien Pecco Bagnaia complète le podium. Côté français, Fabio Quartararo peut se satisfaire d'une belle 7e place. On l'écoute.
On a eu pas mal de problèmes avec le pneu avant, où on aurait pu faire un tout petit peu mieux. Je pense que voilà, 6e position, c'était le max.
Voilà, l'autre français, Joan Zarco, s'est classé 10e. Le Grand Prix de Thaïlande, première manche du championnat du monde, sera à suivre ce soir à partir de 19h, heure de Nouméa. Le football, et rien ne va plus pour Saint-Étienne. Encore battu face à l'OGC Nice pour le compte de la 24e journée de Ligue 1. Les Lissois l'emportent sur le score de 3 buts à 1. Nice est 3e du classement alors que Saint-Étienne est toujours 16e du championnat de France. Une autre rencontre aujourd'hui, Lens qui reçoit Le Havre. Le score était de 3 buts partout après 81 minutes de jeu. La dernière belle affiche, le PSG en ce moment même qui reçoit le club de Lille. Et puis sur les terrains de rugby, place à la 18e journée du top 14 avec déjà des succès pour le Stade français sur La Rochelle, 22-17. Les Parisiens qui laissent la place de Lanterne Rouge au Breton de Vannes, surclassé par Toulouse, 63-21. Montpellier l'emporte sur Castres, 21-17. Victoire également de Lyon sur Toulon, 27-20. Une seule victoire à l'extérieur ce matin au crédit de la section paloise sur le terrain du Racing 92, 47-29. La dernière affiche oppose en ce moment même Perpignan à l'Union Bordeaux-Bègles. Il est 7h passé de 24 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover,
aménagée.
Les détails de cette météo, c'est avec vous Nicolas, bonjour.
Bonjour Michael. Alors ce matin, sur Belep et la moitié nord de la Grande Terre, le ciel sera souvent gris avec des averses parfois orageuses. Sur les Loyautés et le sud, les nuages seront encore très présents. Ailleurs, le temps restera sec. Le vent d'est-sud-est soufflera entre 5 et 10 nœuds, localement de 10 à 15 nœuds sur le sud. Sur la pointe nord et Belep, le vent de nord-est avoisinera les 10 nœuds. Cet après-midi, le temps restera globalement très nuageux et des averses circuleront sur la majeure partie du territoire. Sur le nord de la chaîne, des averses parfois orageuses se déclencheront et déborderont vers les côtes en cours d'après-midi. Sur le sud, l'instabilité sera plus limitée, mais en fin d'après-midi, une averse orageuse sera possible sur le relief et ses abords. Sur le nord, le vent sera faible ou de secteur nord-est, entre 5 et 10 nœuds. Sur les autres régions, le vent se maintiendra d'est-sud-est, entre 10 et 15 nœuds, localement entre 15 et 20 nœuds sur le sud-ouest et dans la région de Nouméa. Les températures maximales seront stables entre 29 et 30 degrés, Michael.
Merci beaucoup, Nicolas.